Alors, de retour à cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Depuis septembre, la Galerie des arts visuels propose au public un programme de conférences intitulé « Espace public et mobilité, bilan et hypothèse » qui réunit des artistes, théoriciens ainsi que des historiens dont la pratique aborde les enjeux de l'art dans l'espace public. On a d'ailleurs eu un très beau dossier sur l'art public et ce jeudi, le critique est historien d'art, Patrice Loubier présente une conférence intitulée « Cacher, embusquer, survenir, pourquoi un art furtif? » Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec lui sur ce sujet. Bonsoir, M. Loubier.
Oui, bonsoir, Audrey.
Ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Oui, merci beaucoup. Eh bien, M. Loubier, ça fait déjà de nombreuses années que vous vous intéressez à l'art furtif, on pourrait dire aussi infiltrant. Vous avez écrit plusieurs articles à ce sujet et autres, des expositions aussi, je pense.
Oui, ça a fait partie parfois de ce genre de travail, de quelques expos que j'ai pu présenter, en effet, oui.
Oui. Eh bien, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez décrire en quoi ça consiste l'art furtif?
Bien, l'art furtif, ce qu'on pourrait dire en fait, c'est que cette expression-là, elle vient des avions furtifs, des bombardiers furtifs. Qu'on a connu grâce à la guerre. C'est un peu drôle de dire, hein, qu'on
oui.
a grâce à, parce que ce sont des armements extrêmement redoutables. Donc, les bombardiers furtifs sont sortis lors de la première guerre du Golfe en 1991. Donc, cette idée d'une arme invisible en tant que telle a inspiré un certain nombre d'auteurs, de critiques, et le terme de furtif, on l'a adapté donc à un type d'art qui, lui, ne vise pas à agresser ou à tuer, à la différence de l'armement, bien
oui.
sûr, mais qui travaille à partir d'un certain secret. Alors, on pourrait, de manière très simple, on pourrait penser à l'art furtif comme à des œuvres qui se glissent de manière incognito dans la ville, dans l'espace urbain, dans l'espace public. Donc, des œuvres qui ne semblent pas être des œuvres a priori et qui n'ont pas autour d'elles non plus un cadre ou un socle, donc une signalétique qui informerait le passant, si vous voulez, que ceci est une œuvre d'art. Donc, ces œuvres-là, très souvent, on les remarque à un moment donné et on se rend compte que parfois elles étaient là dans le paysage urbain, on les avait tout simplement pas vues. À un moment donné, on les aperçoit. Donc, je dirais que la force de ces œuvres-là, c'est la surprise, c'est l'étonnement, l'intrigue qu'elles peuvent susciter donc auprès du spectateur, de l'observateur qui tombe dessus par hasard. Alors, un autre aspect, une autre manière de comprendre l'art furtif, c'est de dire que c'est une pratique artistique qui s'émancipe d'une certaine façon de l'exposition. Donc, au lieu de présenter l'œuvre d'art au musée, à la galerie, l'artiste va dans la rue, va dans la vie en tant que telle, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc, il va chercher le spectateur là où le spectateur ne l'attend pas. Au lieu que ce soit le spectateur qui vienne à l'art, donc qui vienne visiter une expo au musée, par exemple, au contraire de ça, c'est l'artiste qui se déplace dans l'espace public, dans l'espace urbain, pour installer de manière souvent d'ailleurs clandestine ou anonyme son travail. Et de cette façon-là aussi, c'est un public plus large qui peut être témoin donc de ces pratiques-là. Dans ce sens-là, on pourrait dire aussi que c'est proche du street art. Alors le street art actuel, quand on pense à un Banksy, par exemple,
oui.
Banksy travaille un peu comme ça. Donc, présenté, maintenant, évidemment, il est extrêmement connu, donc ses œuvres ne sont plus du tout anonymes.
Oui.
Mais voyez le rapport, donc, des œuvres comme ça qui existent en tant que telles dans la ville, dans l'espace public, dans l'espace urbain, dans la vie de tous les jours, au fond.
Oui, et puis je pense aussi ces œuvres-là peuvent, à ce moment-là, avoir une durée de vie quand même assez intéressante aussi. L'artiste perd, en quelque sorte, une fois qu'elle est dans l'espace public, elle peut perdurer, par exemple, jusqu'à temps qu'elle se désintègre ou même durer plusieurs années aussi, je pense.
Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes d'échelles de temps, hein, depuis des gestes performatifs éphémères qui durent un instant. Mm-hmm. Il y a des œuvres comme celle de Gilbert Boyer qu'on peut voir à Montréal. Donc, un ensemble de plaques de marbre qui ont été posées sur des immeubles d'habitation en 1988. Okay. Donc, c'était une initiative individuelle de cet artiste-là. C'était pas présenté dans un événement. C'était pas soutenu par une galerie d'art. Et c'était une initiative purement personnelle. Mais il se trouve que ces plaques-là, 11 des 12 plaques originales, sont toujours en place. Donc, ça va faire bientôt 30 ans. Et il y a encore des gens qui, même, là, je vous parle évidemment d'une œuvre furtive qui fait partie maintenant, qui s'est inscrite dans l'histoire de l'art. Donc, je parle de « Comme un poisson dans la ville » de Gilbert Boyer.
OK.
C'est une œuvre qui est connue, qui est importante maintenant, mais il y a encore toujours des gens qui tombent sur ces plaques-là au moment où on se parle et qui s'étonnent, qui trouvent, qui voient donc, qui lisent les textes poétiques sur la quotidienneté qu'on peut lire sur ces plaques-là et qui sont intrigués, s'arrêtent un instant et vivent une pause à ce moment-là, parce que c'est un arrêt du temps quotidien, au fond. On marche dans la ville, on voit quelque chose d'un peu singulier, d'un peu étonnant, on s'arrête, on se gratte la tête, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est dans cette interrogation-là, qu'est-ce que c'est que ça, au fond, qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est pas une commémoration officielle, ça ne rapporte pas la vie d'un grand personnage ou d'un grand événement historique, ça nous parle du quotidien, des gens qui marchent, un oiseau qui passe dans le ciel, bon, etc. Presque comme des haïkus japonais.
Oui.
C'est dans cet instant un peu d'arrêt, d'étonnement, que Gilbert Boyer donc va voir l'art se manifester. Donc l'art, c'est un peu quand, pendant un moment, vous êtes un peu sorti, transporté hors de vos réflexes, de vos habitudes, et vous savez pas tout à fait à quoi vous avez affaire, qu'est-ce que vous voyez, et là votre imagination évidemment se met au travail et vous vivez une expérience, au fond, vous voyez quelque chose qui se laisse pas lire en tant que tel aussi immédiatement que les autres éléments du paysage urbain, à la différence des publicités. Donc, les publicités, elles nous matraquent, hein, elles nous livrent un message injonctif, elles nous disent un peu comment penser ou surtout comment désirer, quoi vouloir consommer. Mm-hmm. Alors, dans l'art furtif, il y a au contraire, des textes, des images, des manifestations plastiques qui incitent plutôt le spectateur, le passant, à rêver en tant que tel. Vous voyez, donc c'est un peu différent dans ce sens-là.
Exact. Et puis, vous avez souligné il y a quelques instants l'importance de l'idée de l'expérience aussi, hein, de vivre une expérience qui, d'emblée, ne serait pas identifiée comme art, en quelque sorte, une expérience tout autre.
Oui, alors ça c'est fondamental et ça participe d'une utopie qu'on trouve dans tout le 20e siècle, dans tout l'art moderne, dans toutes les avant-gardes, c'est cette idée de vouloir fondre l'art dans la vie, de vouloir faire en sorte que l'art soit pas simplement une réalité purement symbolique, mais qu'il ait lieu dans la vie concrète, qu'il affecte les gens, quelle que soit la manière. Et un bel exemple de ça, c'est un autre exemple d'œuvre furtive, ça serait par exemple le travail de l'artiste canadienne Diane Borsato. À un moment donné, cette artiste-là, elle va dans des boutiques de vêtements, elle prend des vêtements sur les tablettes, elle s'en va dans les cabines d'essayage, mais au lieu d'essayer les vêtements, elle coud de petites fleurs, donc elle brode des petites fleurs dans les revers, les poches des vêtements qu'elle fait semblant d'essayer. Et ces petites fleurs minuscules qui sont dissimulées dans les vêtements, elle va, une fois qu'elle a brodé ça, elle retourne dans la boutique, ni vue ni connue, et elle retourne les vêtements en place, tout simplement, et elle imagine, dans le texte qu'elle a écrit sur cette action-là, elle imagine l'expérience que les acheteurs de ces pantalons, de ces jupes auront peut-être si jamais ils voient cette petite fleur-là. Et elle dit, ça peut être interprété comme un don, comme une contrariété, quelque chose d'un peu énigmatique, quelque chose qui perturbe, qui dérange, ou comme une révélation aussi. Oui. Alors, vous voyez, donc, cette idée d'expérience, elle est fondamentale. Ça peut passer par toutes sortes d'émotions, toutes sortes de réactions en tant que telles. La surprise, l'étonnement, évidemment, étant quelque chose d'extrêmement fréquent dans ce type de pratique-là.
Oui. Eh bien, il nous reste seulement une minute et demie à peu près. Est-ce que on a parlé d'art furtif, mais on n'a pas parlé de votre conférence, mais j'imagine que ce sera des éléments qui seront abordés. Mais j'étais juste curieuse si vous pouviez nous dire un petit instant là, qu'est-ce que vous allez traiter également aussi là, par rapport à l'art furtif dans votre conférence.
Dans la conférence, donc, je vais bien sûr, comme j'ai tenté de le faire ici maintenant, je vais tenter de présenter un peu sommairement ce que c'est que l'art furtif, mais je vais surtout tenter de montrer comment il y a un passage, une transformation dans le rôle que les artistes qui font du furtif attribuent aux spectateurs. Alors, dans plusieurs des exemples que j'ai pu sur lesquels j'ai pu travailler antérieurement, l'artiste prodigue une expérience qui sera vécue ou non par le spectateur. Le spectateur est en quelque sorte le récepteur. C'est celui qui se promène dans la rue et qui reçoit, si vous voulez, un peu comme un don, le texte poétique de Gilbert Boyer ou la petite fleur dans les vêtements qui sont brodés donc par Diane Borsato. Alors, et il a pas de guide, il a pas de clé pour interpréter ce qu'il trouve, ce qu'il rencontre. C'est à lui hein, de faire son travail de spectateur et d'imaginer, de construire un sens à partir de ça. Alors, il y a une transformation au sens où il y a des artistes depuis un certain nombre d'années maintenant qui travaillent de manière furtive, donc ils vont placer des dispositifs de manière anonyme dans la ville qui semblent pas être des œuvres d'art. Le collectif québécois, par exemple, CINE, a placé une vingtaine de tables à pique-nique de manière, encore une fois, si vous voulez, clandestine sur l'île de Montréal, dans toutes sortes d'endroits, des terrains vagues, des espaces résiduels, des boisés. Et ces tables à pique-nique-là invitent à l'usage. Donc, font du spectateur non plus un simple récepteur, mais un usager actif du dispositif qui est invité au fond, même s'il ne sait pas lui que c'est une œuvre d'art au départ, qui est invité à en faire usage, donc à utiliser les tables de pique-nique, par exemple, à les transformer, à les adapter. Ce travail-là, à ce moment-là, un projet comme celui-là fait émerger, si vous voulez, ou catalyse ou favorise une convivialité ou une socialité nouvelle dans des espaces de la ville que les aménagements urbains avaient jusque-là négligés. Donc, un passage, autrement dit, d'un spectateur qui reçoit, si vous voulez, une expérience à un spectateur qui fait sa propre expérience, oui. Si vous voulez. Ce serait un peu le résumé ou la formule par laquelle on pourrait peut-être résumer cette conférence que je vais donner.
Eh bien, effectivement, on a bien hâte d'entendre tout ça. Donc, ce jeudi 4 février à 16h30, c'est à l'École des arts visuels au local 3153. Et pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'y assister, je sais que la Galerie des arts visuels fait une captation vidéo qui se sera rediffusée par la suite sur le site. On va pouvoir vous écouter en différé à ce moment-là. Eh bien, Patrice Loubier, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle conférence ce jeudi.
Merci beaucoup, Audrey. Au plaisir. Ça m'a fait grand plaisir.
Merci. Au revoir. Bon.